Chapitre 15e, Rawak. Le paysage que nous avions sous les yeux était ravissant. Placé au milieu de la vaste rade comme au centre d'un magnifique panorama, nous pouvions d'un seul coup d'œil en admirer l'harmonie. À droite se dresse un cap chevelu sur lequel sont étalées de la façon la plus variée toutes les richesses botaniques des zones brûlantes. Puis le cap, s'abaissant par une pente insensible et une courbe régulière, se repose à une lieue de là, sur la plage. Ici sont des maisons groupées, bâties sur pilotis. Des feuilles de latanier et de bananier servent de toiture à ces demeures, élevées de 7 à 8 pieds au-dessus du sol sablonneux, et tout alentour se montrent épars quelques tombeaux protégés par leurs idoles hideuses, les crânes blanchis et les pieuses offrandes des amis et des parents. Un vide vaporeux à travers les flèches élancées d'un admirable bouquet de cocotiers laisse voir au loin un large ruban vert, canal tranquille qui sépare deux terres voisines. À gauche, le terrain reprend sa courbure et s'élève peu à peu, comme pour rivaliser de grâce et d'élégance avec le paysage du côté opposé. Sur la base de cette petite hauteur, le flot se brise avec violence et reflète au loin 1000 arcs-en-ciel. Enfin, dans un lointain violâtre, se groupent les hautes et solitaires montagnes de Beijiu, dominant la terre silencieuse du pays des Papous. Et pour raviver le tableau, des ombres, ou plutôt des fantômes noirs, agités par la peur et la curiosité, sautillent au fond de la rade, ainsi que fraye une bande de babouins. Enfin, des lames joyeuses courant les unes après les autres, reflétant un ciel d'azur et un soleil large et brûlant, complètent le paysage. À la mer basse, un navire de moyenne grandeur peut toucher sur un roc à une encablure de terre. Mais M. Guérin n'était pas homme à remplir la mission dont on l'avait chargé le matin sans signaler la position de ce dangereux récif. Le lendemain de notre arrivée, Rawak fut désert. Notre présence avait fait fuir les naturels. Nos tentes dressées à terre protégeaient nos instruments astronomiques. Les embarcations cherchaient des mouillages commodes. Les chasseurs parcouraient les bois. Les botanistes fouillaient partout. Et les pauvres malades, appuyés sur leurs amis, cherchaient à ressaisir une vie près de leur échappée. Cependant, les indigènes ne se montraient pas encore. Leurs agiles pirogues glissaient bien la nuit dans le canal qui sépare Rawak de Waijiu, et comme nous n'avions pas l'air de nous apercevoir de ces rondes nocturnes et mystérieuses, les journées étaient paisibles, sans incidents, monotones et étouffantes. Peu à peu, les pirogues s'approchèrent davantage. Les plus téméraires de ceux qui les montaient descendirent sur la plage, et tout tremblant d'abord, ensuite audacieux jusqu'à l'impertinence, ils s'établirent près de nous. Puis ils s'assirent familièrement à nos côtés, goûtèrent de nos mets, voulurent essayer la commodité de quelques-uns de nos vêtements, et finirent par commettre quelques larcins que nous eûmes la prudence de ne pas punir, de crainte que par notre faute, il ne nous fût plus permis d'étudier leurs mœurs, leurs usages, leurs caractères, et c'eût été une grande perte pour notre curiosité. Lassés enfin de leur course nocturne, dont ils ne tiraient aucun profit, rassurés aussi par notre attitude paisible, les insulaires échappés de Bonny et de Beijiu se décidèrent à débarquer en plein jour en face de nous, sans armes, avec une sorte de bravoure où il y avait plus de fanfaronnade que de vrai courage, et il ne dépendit pas de nous que nous devinssions pour eux de véritables amis. Je dois ici un utile conseil aux explorateurs que le hasard ou les devoirs de leur mission appellent au milieu de ces peuplades les plus farouches du globe. C'est que, à moins d'y être forcés par les plus graves circonstances, ils ne doivent se montrer les agresseurs dans aucune occasion. L'opulence est en tout lieu un excellent passeport. Et au milieu de ces archipels indiens, on est riche avec si peu de choses que la générosité ne coûte aucun regret, alors même que l'on est dupe de sa confiance. À Rawak, nous ne tardâmes pas à comprendre que nos comptoirs seraient bientôt appauvris par les exigences des naturels que nous ne voulions pas éloigner. Mais à tout prendre, nous aimions mieux encore perdre quelques bagatelles que de laisser concevoir de notre grandeur une opinion défavorable. Aussi continuâmes-nous nos prodigalités, sauf à nous payer plus tard en fouillant dans les tombeaux élevés sur la plage. Notre exemple devint contagieux. Les naturels se piquèrent d'honneur à leur tour. Chaque matin, un grand nombre de pirogues venaient voltiger autour de la corbette et nous apportaient des coquillages rares, de très jolis insectes, des papillons précieux et surtout d'énormes lézards vivants fortement liés sur le dos à un gros bâton. Ces lézards monstrueux sont, à ce qu'il paraît, très nombreux à Bonny, à Waijiu, où pourtant on leur déclare une guerre à outrance. Les indigènes, pour s'en saisir, emploient un moyen qui n'est pas sans quelque danger, quoique la morsure de ces reptiles ne soit pas très venimeuse. Toutefois Bérard, un de nos élèves, qui en fut mordu un jour, en éprouva, malgré une prompte cautérisation, une fièvre qui dura près d'une semaine. Voici le moyen employé par les sauvages. Ils se placent doucement à genoux sur la terre molle où le lézard a établi son gîte. Ils ont en main une palette tranchante en forme de battoir et tiennent captifs au-dessus de l'orifice du trou plusieurs insectes bourdonnants dont le frôlement attire le reptile. Dès que celui-ci a montré sa tête à l'air, le chasseur plonge vivement sa palette dans le sol léger et mobile. Il est rare que le lézard ne soit pas arrêté par le milieu du corps. Si pourtant cela arrive, la première retraite du reptile lui est à l'instant fermée et les insulaires apostés par-delà punissent, par une amende consistant en poisson ou en coco, le chasseur désappointé. La présence de ces monstres lézards dans tout cet archipel ferait supposer que de gros serpents y ont aussi établi leur demeure. Mais, quoiqu'ils y soient en effet très communs, nous n'en avons guère vu qu'eussent plus de 4 à 5 pieds de longueur. Ici, comme dans presque tous les pays du globe, ils craignent le bruit et fuient à l'aspect de l'homme. Cependant, je me hâte de prévenir les capitaines que sur les bords de l'Egade, situés à quelques vingtaines de pas du fond de la rade de Rawak, on trouve fréquemment un grand nombre de ces reptiles. Ils paraissent attendre, roulés en spirale sous des touffes d'arbrisseaux, une agression qui les force à la défense. La meilleure arme contre de pareils ennemis est une baguette de fusil, dont un coup, bien appliqué sur les flancs de l'animal dressé, brise un de ses anneaux et arrête tous ses mouvements. Cependant, il faut de l'adresse et du sang-froid pour une pareille chasse. Rawak est une île taillée en forme de pile en courbe. Les deux extrémités sont larges, hautes, raboteuses. Le centre est uni, resserré. Elle n'a guère qu'une petite demi-lieue dans sa moindre largeur, et on la traverse en suivant un joli sentier, sans cesse ombragé par les arbres les plus riches et les plus variés. C'était ma promenade favorite de chaque matin, alors que le soleil, à son lever, réveillait les myriades d'oiseaux qui inondaient, pour ainsi dire, la cime touffue des arbres. La nourriture des habitants de Rawak et de Weijiu consiste en poissons, en volailles, en coquillages et en fruits. Pour boissons, ils n'ont que de l'eau pure ou du lait de coco. Pour ustensiles de service, des vases grossiers et pour unique assaisonnement, l'appétit qu'ils savent se donner par un continuel exercice. En général, les voyageurs qui publient le résultat de leurs observations dans les pays lointains croient avoir rempli leur tâche dès qu'ils nous ont tout simplement signalé un fait. Par exemple, ils ont dit, et la chose est vraie, que les sauvages faisaient du feu en frottant un morceau de bois sec contre un morceau de bois vert. Et voilà tout. Eh bien, cela ne m'apprenait presque rien, et je ne savais pas exactement comment on faisait du feu chez les sauvages. Voici leur procédé, c'est par les détails seuls qu'on traduit fidèlement. Un homme s'accroupit, tenant dans sa main deux morceaux de bois, l'un long de 12 à 15 pouces, gros comme une baguette de tambour, et terminé en cône peu aigu. L'autre est un parallélogramme, de la hauteur de 5 ou 6 pouces et de 3 ou 4 de largeur, sur un des côtés duquel est pratiqué, vers le milieu, un petit trou profond de 6 lignes. De ce trou part une rigole de 3 ou 4 lignes de profondeur allant jusqu'au bout de la pièce de bois. Celle-ci est verte, la baguette est sèche. L'homme accroupi retient entre la plante de ses 2 pieds la grosse pièce, glisse quelques herbes et folioles à demi calcinées dans la rigole jusqu'au petit trou, y place la baguette qu'il tient entre ses 2 mains ouvertes et la tourne et retourne ainsi qu'on prépare chez nous le chocolat. C'est par ce frottement rapide, qui dure toujours une demi-minute au moins, que la chaleur se développe et met le feu aux herbes sèches que l'on attise ensuite avec le souffle. Cela est simple, j'en conviens, mais cela devait être dit. Et maintenant, dans la crainte de l'oublier plus tard, je me hâte de constater ici 3 observations bien frivoles, sans doute, mais qui m'ont paru assez singulières. La science les expliquerait peut-être par des études physiologiques ou psychologiques. Moi, je ne me jette pas dans les profondeurs et je n'interroge que les surfaces. J'ai donc remarqué que depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'au cap Horn, c'est-à-dire dans un espace à peu près égal au 5/6 de la circonférence de la Terre, pas un peuple sauvage ne mange un mets quelconque assaisonné. Point de sauce, point de fourniture. Tout se cuit sur la braise à une fumée ardente ou dans des fours qu'on étouffe quand la victime y est jetée quelquefois en vie. L'art culinaire n'est guère investigateur. Pour dire non, tous les peuples de la terre font avec la tête le signe en usage chez nous. Quelques-uns ajoutent à ce signe une parole, d'autres un mouvement de la main, mais toujours le signe de tête existe. Eh bien, pour dire oui, tous les peuples de la terre, dans le vaste espace dont je viens de vous parler, lèvent la tête en reniflant au lieu de la baisser comme nous. C'est futile à observer, j'en conviens, mais j'ai fouillé dans tant de petits secrets, j'ai voulu si bien boire. La troisième de mes observations est, je crois, plus singulière encore. C'est que chez tous ces peuples, on dort couché presque continuellement sur le ventre. La médecine nous expliquera cela. Me pardonnera-t-on d'indiquer ces légères différences, ces usages généraux? C'est par un faisceau de minutieux détails qu'on arrive à des conséquences générales. Si les lourds et trapus indigènes de ces contrées ont souvent l'intelligence trop épaisse pour qu'ils puissent surmonter certaines difficultés, il faut convenir aussi que le ciel les a doués d'une sorte d'instinct vraiment merveilleux, à l'aide duquel ils parviennent à maîtriser le caprice des éléments et la volonté hostile et opiniâtre du sol où le destin les a jetés. Le besoin, ce premier et redoutable ennemi des hommes, leur a dit comment il fallait que leurs demeures fussent construites pour échapper aux courroux des flots ou aux rafales des ouragans. Il leur a appris à grimper comme des chats sauvages sur les arbres les plus élevés, au sommet des tiges les plus lisses. Sans doute aussi, il leur a indiqué de puissants remèdes contre la piqûre incessante et douloureuse des insectes qui assombrissent l'atmosphère et contre la dangereuse morsure des serpents qui rampent autour d'eux et partagent parfois la même couche. Il nous arrivait souvent, à nous gens si fiers de notre supériorité sur les sauvages, de pénétrer dans un bois et de chercher inutilement pendant des heures entières, sur les plus hautes branches, un fruit rafraîchissant. Eh bien, dès que nous faisions entendre un indigène, que nous lui donnerions quelques bagatelles en échange d'une jam rosa aigrelette, d'une banane ou d'une pastèque, nous étions sûrs de le voir revenir peu d'instants après, apportant dans ses mains ou sur sa tête les objets que nous avions désirés. Pas un de nos pilotes garde-côtes, habitués aux signes atmosphériques, indiquant d'une manière assez précise les variations d'une température ou les approches d'un coup de vent, ne pourrait lutter avec les naturels de Rawak dans l'art de prédire la veille le temps du lendemain, et dès que vous les voyez ici abritant leur proie loin du rivage, soyez sûr qu'il y aura bientôt bourrasque à l'air ou sur les flots. Ce peuple est casanier, apathique, silencieux. Il naît, il vit, il multiplie, et son existence ne sort des limites qu'il s'est tracées qu'alors qu'un navire européen vient relâcher dans ses parages, ce qui, je crois, ne lui arrive guère qu'une fois chaque 4 ou 5 ans. Voyez ces individus assis là, sur le sable, au rayon d'un soleil dévorant, insensible à ses flèches aiguës. Ils sont tous, ou presque tous, courts, trapus, d'un noir sale. Leur front est déprimé, leurs yeux petits, sans feu, sans animation. Sur leur tête grosse et lourde pousse une si prodigieuse quantité de cheveux longs et crépus qu'on dirait un échafaudage de monstrueuses perruques, paisible refuge de myriades d'insectes qu'il n'est pas nécessaire que je vous nomme. Les joues des naturels de Rawak sont larges et pendantes, quelques poils épars et inégaux les ordent d'une façon peu gracieuse, et leurs lèvres supérieures, pareilles à celles des nègres d'Angole ou de Mozambique, est ombragée d'une moustache, mais d'une seule moustache, qui ne couvre que la moitié de la bouche, car l'usage du pays, ou peut-être un fanatisme religieux, défend d'en porter des deux côtés. Maintenant, ajoutez à ces charmes séduisants une poitrine large et velue, des épaules charnues et rondes, des bras courts, potelés, taillés en boudin sans forme dessinée, sans muscles, des cuisses comme des troncs d'arbres, des pieds et des mains énormes, une démarche pénible et écrasée, des dents sales et une odeur de bouc qui s'exhale au loin, et vous aurez une idée assez complète de cette population rare, triste, curieuse et insolente, qui ne craint plus de venir se frotter à nous tous les matins et qui ose même parfois nous regarder avec un certain mépris facile à discerner. Et cependant, il y a parmi tous ces hommes, si grossièrement bâtis, une adresse telle pour certains exercices qu'on a peine à y croire, même alors qu'on en a été 1000 fois témoin. Je veux parler de leur pêche vraiment merveilleuse et tellement amusante que nous ne pouvions nous lasser d'y assister matin et soir. Placé debout sur l'avant d'une pirogue, un homme est là, Neptune parodié ou plutôt Silène en goguette, tenant en main une longue perche armée de 2 pointes de fer en fourchette. Il plane sur l'eau et cherche de l'œil le poisson qui fuit et glisse à peu de profondeur. Dès qu'il le voit, il fait signe à ses camarades et leur indique d'un geste de la main gauche le côté vers lequel ils doivent diriger l'embarcation. Ceux-ci obéissent et pagayent doucement pour ne pas effrayer le poisson. Halte maintenant! Le chasseur a mesuré la distance. Il a levé le bras, calculé la courbe que le trait va décrire. La fourchette est lancée et il est rare qu'elle ne frétille pas sur l'eau au mouvement de l'animal qu'on voulait atteindre. Sur 25 coups lancés, parfois au milieu d'une mer peu calme, deux coups à peine sans résultat. C'est une chose vraiment digne de remarque, et dont la civilisation devrait rougir, que le respect qu'ont pour les cendres des morts tous les peuples de la terre, même les plus stupides et les plus farouches. Ici, comme à Coupang, comme à Hombay, il est aisé de voir que les hommes, dans leur religion bizarre, ridicule ou cruelle, croient à une autre vie, car sans cette foi, le culte qu'ils professent en faveur de ceux qui ont pour toujours disparu de cette terre ne serait qu'un absurde contresens. Remarquez ces tombeaux dont toute l'île de Rawag est semée. Nulle herbe parasite ne croît autour du terrain qui environne cette demeure sacrée, terrain plane, enjolivé d'un sable fin et blanc. Les parois du monument sont parfaitement entretenues et ne laissent aucune issue au vent, à la pluie, aux insectes. Ce sont des cases basses, carrées, avec charpente au plafond, bâties en tiges de bambou et en feuilles de palmiste. Une porte étroite est pratiquée à la façade. Un homme accroupi peut aisément y passer et visiter l'intérieur, où sont placés renouvelés des ex-voto, pieux garants d'une tendresse qui survit à la tombe. Dans le principal de ces édifices, nous avons trouvé des bandelettes en laine et soie de diverses couleurs, fixées sur des bâtons debout, un énorme coquillage de la classe des bénitiers, plusieurs armes brisées, un grossier escabeau et une assiette en porcelaine chinoise. Sur le devant et en dehors étaient placés, par rang de taille, cinq crânes fort propres et fort bien conservés, et le tout se trouvant, pour ainsi dire, abrité sous une pirogue renversée, image peut-être de la vie qui venait de s'éteindre. Quelques figures grossièrement taillées, probablement les divinités du lieu, se faisaient remarquer auprès des tombeaux et au-dedans. Mais ces figurines, tantôt de bois cheval sur un morceau de bois aigu, tantôt couchées sur la terre ou le gazon, paraissaient avoir été presque toutes mutilées. Cependant, les échanges devenaient chaque jour plus actifs. Nos bagatelles acquéraient plus de valeur. Mais nous avions assez de lézards, de saguets ou d'arcs, et nous demandions avec instance des papillons, des insectes ou des oiseaux. Nous ne tardîmes pas à être satisfaits. Les pirogues arrivèrent en nombre considérable à notre camp, et nos collections s'enrichirent de plusieurs familles et espèces très curieuses. Les oiseaux de paradis eurent leur tour, les insulaires nous en apportèrent une assez grande quantité, proprement enveloppée dans des feuilles de bananier, et empaillée d'une façon si admirable qu'on a longtemps cru en Europe qu'ils n'avaient point de pattes et qu'ils perchaient à l'aide du bec et de leurs ailes. Pour deux mouchoirs, un couteau de cuisine, un vieux drap de lit et quelques hameçons, j'obtins de prime abord cinq magnifiques oiseaux de paradis, un six filets noirs, si rares, si beaux, si éclatants de mille reflets. Le chef de la pirogue avec qui je fis cet échange me parut si enchanté de son marché qu'il me donna à entendre qu'à son retour de Weijiu, il m'apporterait une plus grande quantité de ces oiseaux et qu'il voulait profiter d'une brise favorable pour partir afin de me revoir plus tôt. Comme les embarcations n'étaient jamais manœuvrées qu'à la pagaie, je ne compris pas d'abord le motif de ce brusque départ, et je le lui dis en montrant les voiles de la corvette étendue à l'air. Mais lui, me faisant signe d'attendre, grimpa en quelques instants sur l'un des cocotiers du rivage, en descendit une jeune branche avec toutes ses folioles, et s'élançant joyeux dans sa fragile pirogue, planta sur le banc du milieu l'élégante dépouille de l'arbre. Le vent la courba d'une manière gracieuse, et le pilote, fier de ma surprise, disparut sur les flots d'un air triomphant. Ô industrie, que de miracles n'as-tu pas semés sur toutes les parties du globe ! Cependant, nos travaux étant achevés, nous levâmes l'ancre et dîmes adieu à cette terre si féconde dont on pourrait tirer de si précieux avantages. Bientôt parurent à l'horizon les Anachorètes, entourées de récifs dangereux. Puis, devant nous, les mille îles découvertes par Bougainville, puis encore les Carolines, les bienheureuses Carolines, basses, riante, paisible, jetée comme un bienfait, comme une pensée céleste au milieu de ce vaste océan peuplé de tant de farouches naturelles. Voyez, voyez les provolants fonds de l'air. Ils nous suivent, nous atteignent, nous accostent, nous entourent. Loulou, loulou, du fer, nous crie-t-on de toutes parts. Et les insulaires montent à bord, inquiets mais impatients de te voir, de toucher à tout. Ces peuples navigateurs dont je vous parlerai bientôt, car je dois voyager avec eux, vivre là, sous ces belles plantations, sans querelle au-dedans, sans guerre au-dehors, braves, humains, généreux, beaux par le corps et par l'âme, souriant à une caresse, un témoignage d'affection, sautant comme des enfants à qui l'on vient de donner des joujoux, acceptant une bagatelle avec la plus vive reconnaissance, la nouant au cartilage allongé de leurs oreilles qui leur servent de poche, mais vous offrant toujours en échange des paniers élégants, des hameçons en os, des coquillages magnifiques, craignant de se montrer moins généreux que vous, non par orgueil, mais par bonté. J'avais souvent entendu dire que les provolants des Carolines étaient des embarcations taillées de telle sorte qu'à l'aide d'une voile triangulaire en pagne, deux balanciers et un pilote gouvernant avec le pied, on coupait, pour ainsi dire, le vent. Eh bien, ce qui me paraissait alors une ridicule exagération des voyageurs, devint à mes yeux une éclatante vérité, et c'est un des phénomènes nautiques les plus curieux à observer que ces hardis insulaires, debout ou accroupis sur leur proue plein d'élégance, se jouant des vents, triomphant de la violence des moussons et passant, comme de rapides hirondelles, au milieu des courants et des récifs les plus dangereux et les plus étroitement resserrés. Que leur importe à eux qu'une embarcation chavire, ils sont là pour la relever, ainsi qu'on le ferait chez nous dans un bassin tranquille et à l'aide de nos palans et de nos grues. Quant à ces hommes, aussi intrépides qu'intelligents, ne craignaient rien pour leur vie. La mer est leur élément, le courroux des tempêtes leur délassement le plus désiré. Et l'on ne comprend pas tant de souplesse et d'agilité au milieu d'obstacles si multipliés et si imprévus. Le Carolin est un homme, un poisson et un oiseau à la fois. Tous les individus qui montèrent à bord se faisaient remarquer par une taille gracieuse et des mouvements pleins de liberté. Il y avait de la noblesse dans leur démarche, de l'expression dans leurs gestes, du vrai rire dans leur gaieté d'enfant. Pourtant, il était aisé de reconnaître, même dans leur empressement à venir à nous, qu'un douloureux souvenir leur commandait une grande défiance. Braves gens, qu'un capitaine sans foi ni pitié aura trompés et poursuivis au milieu de leur joie. Deux des insulaires qui nous firent visite, et pour lesquels les autres semblaient montrer quelques déférences, avaient sur les cuisses et sur les jambes des tatouages ravissants dessinés avec une régularité parfaite. C'était de demi-chefs, de demi-rois, et ils n'eussent pas eu cet ornement en usage chez tant de peuples qu'il eût été encore facile de reconnaître leur supériorité à la noblesse de leur manière, à leur haute stature et à leur force musculaire. Un pagne étroit couvrait les reins de chaque individu et tout le reste du corps était sans vêtements. Quelques-uns avaient aussi des colliers faits avec les folioles de cocotiers et des bracelets coquets tressés avec un art infini. Un groupe de 5 ou 6 naturels, sans doute pour payer leur bienvenue et notre bon conseil, se mit à danser, et je ne saurais vous dire tout ce qu'il y avait d'amusant et de curieux dans cette petite fête si courtoisement improvisée. Cependant, nous naviguions à l'aide de petites bouffées presque imperceptibles, mais un grain à l'horizon nous annonça de la pluie. Nous manquions d'eau, et afin d'en ramasser au moment de l'averse, nous dressâmes nos tentes et allâmes chercher dans la batterie quelques boulets pour jeter sur la toile et faire entonnoir. À l'aspect de ces projectiles portés par les matelots, les Carolins, effrayés, poussèrent des cris sinistres et semblèrent nous accuser de trahison. Nous eûmes beau leur prodiguer de nouvelles ferventes caresses, ils bondirent sur le bastingage et s'élancèrent dans les flots comme des plongeons et rejoignirent à la nage leurs embarcations au large. L'archipel des Carolines s'effaça bientôt à l'horizon, je le perdis de vue avec un serrement de cœur qui m'accompagna bien avant dans la traversée, et cependant, je ne savais pas encore tout ce que je devrais de reconnaissance dans l'avenir à l'un des plus puissants rois de ces îles, où vit en paix jusqu'à présent le peuple le plus beau, le plus doux, le plus généreux de la terre.